Un sol majeur.
Un sol majeur.
Il se définit comme un homme trait d'union, un noir américain si vous préférez, mais comme on vient de l'entendre en première partie, Eddie El Harris n'est pas un trait d'union lambda. C'est un émigré noir américain devenu complètement accro à nos fromages qui puent et un sensuel qui aime touiller le temps qui passe à la terrasse de certains cafés parisiens. Bref, c'est un snob de la nourriture doublé d'un insupportable intellectuel.
Quand je suis aux États-Unis, je pense tout le temps que je suis noir. Quand je suis à Paris, je pense tout le temps à ce que je vais manger. Je ne pense presque jamais que je suis noir, sauf pour remarquer que je n'y pense pas.
Voilà, qui ne va pas rehausser l'idée qu'on se fait de notre culture en France, c'est sûr, mais ça demande quand même un commentaire à cette citation de votre livre « Paris en noir et black ». Vous trouvez vraiment qu'il y a une grande nuance à être black aux États-Unis et noir en France ?
En France, oui, bien sûr. Le moment que j'ouvre ma bouche et les mots français sortent, on va savoir tout de suite, on va entendre que je ne suis pas français. Le moment qu'on reconnaît l'accent américain derrière mon français parfait.
Et non postillonnant.
Ça change tout le jeu. Et je pense que même... Plus important que d'être noir en France, c'est d'être plus avantageux que d'être noir en France, c'est d'être noir américain en France. Parce que là, j'ai dans mon sac à dos culturel le fait que je suis américain, qui apporte beaucoup de choses pour les Français. Donc ils voient un noir américain avec tous les sports derrière, toute la culture, toute la musique, tout ça. En plus, un peuple qui a été dominé par quelqu'un avec les sentiments, l'émotion derrière tout ça pour les Français. Ça apporte beaucoup de choses.
Donc vous êtes moins perçu comme un émigré africain que comme un danseur de claquettes de Broadway. C'est ça qu'on voit. C'est ça que les Français voient en vous.
Oui, pas seulement un claquetteur de Broadway, mais aussi j'apporte la culture américaine, mais aussi la culture noire américaine, qui pour les Français, il me semble, c'est très important. À partir du jazz, de l'arrivée du jazz dans les années 20, même avant. Mais je pense qu'il y avait cette relation qui est derrière le regard qu'on a pour un noir américain.
Pourtant, l'absence de haine raciale dont parlait Richard Wright, premier écrivain noir américain à avoir signé un best-seller, si je ne m'abuse, à propos de Paris, donc dans les années 30, est quand même discutable. Et vous en discutez dans ce livre que vous sortez. Mais vous diriez pourtant qu'en France, vous avez moins conscience d'être noir qu'aux États-Unis.
Parce qu'aux États-Unis, on est toujours noir. Que ça ? Peu importe le succès qu'on a, peu importe les bonnes choses qu'on a fait, peu importe rien du tout, on est noir, on est considéré... Regarde Obama dans la Maison Blanche, il est noir avant d'être président, avant d'être un homme. Il est juste un président noir, on peut pas...
Il est quand même président.
Détacher, il est quand même président, mais on peut pas détacher le mot noir d'une description d'Obama.
Il y a quand même un petit parfum noir, justement, dans le studio, nous qu'on aime bien, un petit parfum Tamla Motown sur notre pick-up dans sol majeur, puisque les Supremes, vous m'avez corrigé tout à l'heure dans le couloir, on ne dit pas les Supremes, mais les Supremes attendent. C'est quand même un des premiers groupes afro-américains à avoir séduit la communauté blanche, on pourrait les présenter comme ça, les Supremes. Mm-hmm. Pourquoi elles vous ont marqué, vous, Eddie Harris ?
C'est mon enfance, les Supremes. Les Supremes, les Temptations, Stevie Wonder, toute cette musique de Motown. Les Supremes, parce que c'était la première chanson, le premier disque que j'ai jamais acheté. Donc pour moi, je me rappelle bien le jour où mon frère et moi sont allés aux disqueries pour acheter des disques. Et lui, pour lui, c'était Sonny, et pour moi, c'était les Supremes et You Can't Hurry Love.
Take a care of love.
Les Supremes en sol majeur sur RFI. Et dans le programme d'Eddie Harris qui a quitté son Missouri natal il y a une bonne cinquantaine d'années, je regarde vos cheveux, pour rejoindre sur les traces de James Baldwin la France. Et du coup, ça nous inspire une nouvelle question en sol majeur.
Quelle est votre ville de cœur?
Quelle question! C'est Paris, bien sûr.
C'est vrai?
Oui.
Bon. Alors, vous bougez pas, vous restez assis sur le fauteuil dans son majeur et vous allez nous dire ce que vous pensez de cette bande-son qu'on a concoctée avec Marco et qui va peut-être raconter votre Paris à vous.
C'est bon de partir n'importe où.
C'est qui ça?
Ça, c'est Jane Morgan qui chante une chanson. Une chanson. C'était une chanson que j'ai écoutée avec ma mère quand j'étais petit, même avant de venir en France. Et ça, c'est la musique de la rue qui était en bas de chez moi quand j'habitais dans le 15e. Et bien sûr, les pompiers et les crieurs du marché. Et ça, quand j'ai commencé à penser à venir vivre en France, j'ai découvert Charles Aznavour et cette chanson qui, pour moi, est absolument magnifique. Le un peu mélangé anglais-français, plus sa voix, j'ai tombé complètement amoureux de la France, même avant de venir.
It's so good.
Dans Paris, en noir et black que vous sortez en ce moment, vous annoncez très très vite la couleur. Et Diaris, vous écrivez « J'avais 22 ans quand j'ai su que je voulais vivre ici, à Paris. Bien que très jeune, Paris est devenue une patrie spirituelle. » C'est quelque chose de très fort, d'une fascination très très forte.
Oui, moi, tout à l'heure, vous avez parlé de mon cher Monsieur Cook, qui était mon prof de français quand j'avais 14 ans. Mais en fait, la fascination avec la France est venue beaucoup plus tôt. Parce que ma mère était fascinée de la France aussi, même sans jamais mis ses pieds ici. Elle parlait de la France, elle écoutait Jane Morgan, des chansons françaises. Elle avait un amour pour la France inexplicable, puisqu'elle n'est jamais venue. Mais quand j'ai commencé à apprendre le français, elle m'a appelé son petit français.
Ah.
Donc c'était quelque chose qui était dans la maison, cette notion de France. J'imagine qu'elle a étudié le français aussi quand elle était jeune, parce que quand elle était dans un coma, juste avant sa mort, son médecin, qui était français, m'a demandé si ma mère parlait français. J'ai dit non, mais de temps en temps, je lui lis en français. Parce que soudain, les mots français sortaient de la bouche de ma mère. Donc j'imagine que dans son âme, quelque part, même en commun, elle touchait un peu la France. Donc la fascination avec la France est venue vers moi très très jeune, très tôt.
Qu'est-ce que vous adorez manger avec les doigts?
Ouais. Parfois, il faut manger avec des doigts. Surtout quand on voyage en Afrique ou dans d'autres pays, mais même en France, il faut avoir un amour pour la cuisine. On peut plonger dedans comme si on plonge dans une piscine.
C'est ce qui fait que vous êtes déjà très français, presque français, parce que vous adorez manger.
Ben oui.
Vous avez dépassé le stade du... Qu'est-ce qu'on mange aux États-Unis comme fromage? Le cheddar?
Le cheddar, mais le cheddar peut être très bon aussi.
Soyons sérieux.
Surtout un cheddar en Angleterre.
Non, vous vous êtes fait ensorceler par les fromagers, nos fromagers parisiens.
Ben oui, j'ai du mal à passer un fromager sans arrêter, regarder dans la vitrine, sentir, respirer l'odeur des fromages. J'adore les fromages. Et pour moi, ça symbolise la France, le fromage, le vin rouge, le pain aussi, bien sûr.
Fromage qui pue, c'est quand même une expérience spéciale pour un Américain habitué à des choses pas trop malodorantes. Si vous nous confectionnez un petit plateau de fromage, là, comme ça.
Maroilles, époisses, peut-être un camembert, juste pour être dans la cliché. Saint-Marcellin, j'adore Saint-Marcellin, ou Saint-Félicien, le même fromage. La taille change, mais c'est le même fromage. Et un brebis des Pyrénées.
Avec un petit vin, évidemment, ça s'accompagne forcément avec un petit vin.
Bien sûr. Rouge, plutôt Côte-de-Rhône, que j'adore.
De quelle nationalité êtes-vous ?
Vous l'avez dit, votre passeport américain traîne toujours dans vos poches. Il vous a même grandement ouvert les portes de Paris. Et paradoxalement, c'est ce qui fait que vous vous sentez peut-être plus des nôtres.
Oui. La citation que j'ai, avec laquelle j'ai commencé l'émission, je pense que je porte ma maison avec moi partout. Je suis à l'aise aux États-Unis, même aux États-Unis, en France, en Allemagne, en Italie, peut-être moins en Allemagne, mais en Italie, en Asie. Je suis un voyageur, j'aime voyager et je suis heureux, non, oui. À l'aise. Je suis à l'aise. Je pense, je suis bien dans ma peau et je pense que ça. Comme ça, j'ai pas de nationalité. Je suis international, peut-être. Et je peux vivre dans plusieurs pays, être complètement à l'aise dans plusieurs pays.
Si oui, mais enfin bon, vous avez quand même extrêmement choisi la France. Oui. Vous êtes entre Paris et un tout petit village charentais qui s'appelle Pranzac, que vous adorez apparemment. Oui. Est-ce que quand vous vous checkez, pour reprendre un terme que vous comprenez, je vous vole certains de vos mots, vous avez l'impression de vous être francisé? Et si oui, jusqu'à quel point?
Jusqu'au point que je vois des choses maintenant avec un œil français, il me semble.
C'est-à-dire ?
C'était, sauf, je ne suis pas râleur, mais je vois beaucoup de choses à travers la cuisine, à travers un repas. Je partage avec les gens du village des repas, qui est très important, moins important aux États-Unis, très important ici. Et quand je regarde les États-Unis dans le monde, je vois différemment que les Américains qui voient la même chose.
Donc par exemple les valeurs américaines la plus connue, Time is Money, c'est poubelle aujourd'hui en ce qui vous concerne?
Pour qui? Pour moi, oui.
Pour vous,
c'était
oui.
Déjà poubelle quand j'avais 15 ans. Je savais que la France était mon pays parce que les Français n'aiment pas travailler, ils préfèrent les vacances.
Mais qu'est-ce que vous nous dites là? Mais qu'est-ce que vous nous dites là?
Mais déjà, 6 semaines de vacances, pour moi, c'est normal. Donc pour l'Américain, avec 2 semaines de vacances, je ne peux pas vivre dans un pays comme ça.
Vous êtes un oisif convaincu, vous aussi, aujourd'hui. Égocentrique, ça fait partie du caractère national,
aussi. Je suis le pire.
Pas trop râleur, donc on peut mieux faire. Le groupe Evangeline est sur le pick-up dans Sol majeur. Dites-nous qui c'est, parce que je ne sais pas grand-chose.
C'est une groupe de femmes de la Louisiane. Ils chantent en cajun, en anglais aussi, mais c'est une groupe cajun. Et j'ai choisi ce morceau parce que c'est la transition. En fait, il y a deux petits morceaux liés par une transition de change. La première, c'est Babylon, qui parle de cet espoir d'être chez nous, mais en même temps, on est loin de chez nous. Et la deuxième partie, c'est une chanson de joie, le fait de vivre bien. Et ça, c'est cajun, ça c'est peut-être français aussi. Et
ça fait partie de vos racines,
oui,
un petit peu.
Tout à fait. En fait, j'ai dit ça dans la voiture l'autre jour, quand j'ai écouté cette musique avec des amis.
Voilà, et vous le redites ici en Sol majeur. Evangeline, dans notre programme sur RFI.
Babylon, where he sat down, and there he wept when he remembered Zion. For the wicked carry us away captivity, require from us a song. How can we sing King Alpha's song in a strange land? So let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight, O
Il y a un tout petit souci, vous allez être obligé, Eddie, de nous chanter cette transition que vous aimiez tant, ça revient. Merci à la technique. Ça se passe en direct sur RFI.
On va prendre le voyage, on va aller au Chili.
The Rivers of Babylon, suivi du bon temps de la Louisiane. Vous chantez pas beaucoup, hein? Vous écoutez religieusement, mais vous chantez pas en même temps.
Non, je chante tout le temps, mais c'était difficile de ne pas chanter cette chanson. Ou avec quand j'écoute la musique, je chante tout le temps.
C'était le groupe.
Même quand j'écoute l'opéra, attention.
Ah oui, ça c'est une chose que vous vous interdisez pas, parce que ça c'est, il y a des interdits pour vous. Enfin, aux États-Unis, en tant que noir, il y a des choses que vous vous interdisiez peut-être et que vous vous autorisez aujourd'hui en France. Allez, on a repris.
Moi, depuis toujours. Mais c'est ça qui est la tristesse pour moi des États-Unis. Les gens, ils restent dans leur petite boîte. Et quand je pense à cette chanson qui vient de se jouer là, vous m'avez demandé. Quand est-ce que j'écoute cette chanson? Mais c'est pas quelque chose que le reste de la communauté noire va écouter. C'est quelque chose qui était dans ma maison, parce que moi, et dans la maison aussi, moi, j'étais multiculturel, je suis toujours. Donc je choisis ce que j'aime.
Le groupe Evangeline, donc, sur RFI To Please, l'écrivain Eddie Harris, notre invité en sol majeur.
Dans quelle langue dites-vous votre alphabet?
Ouh, ben moi en anglais.
Aha. Vous l'avouez.
Oui. C'est la langue maternelle. Je suis toujours dans la langue, cette langue étrangère. Même si je commence à maîtriser un peu le français.
Vous venez de dire que l'anglais c'est la langue étrangère? Non.
Non, je plaisante quand je dis ça.
D'accord.
Mais c'est la langue.
You're kidding.
Oui, c'est la langue de chez nous, donc c'est dans moi. J'ai appris le français comme un étudiant, pas comme quelqu'un qui est dans la culture, dans la langue française.
Alors comment se porte votre français? Est-ce que votre professeur, Monsieur Cook, auquel vous rendez hommage, dans Paris en noir et black, n'aurait pas à rougir de vous?
Il est la dernière fois que je l'ai vu, il y a 2-3 ans, il était fier comme tout, parce que en arrivant chez lui, on a parlé uniquement en français, et il est complètement fier, et je lui ai dit merci, pas seulement pour le français qu'il m'a donné, mais aussi pour cet amour pour la France, parce qu'à travers cet amour pour la France et à travers cette âme, je me trouve dans un lieu que j'adore.
Donc il vous a donné le goût du bon français, mais c'est un français particulier, châtié, raffiné, très 19e, plein de subjonctifs, et donc qui postillonne. On n'aura pas eu l'occasion de vous entendre postillonner.
J'ai fait un effort de ne pas postillonner parce qu'il y a quelqu'un joli devant moi.
Ouf, comment il s'en sort. Alors, vous qui êtes devenu quand même à la fois francophone, francophile, je sens que vous ne vous autorisez pas à écrire, à prendre la plume en français. Pourquoi?
Bah, j'écris de temps en temps en français des petites choses, mais d'écrire, quand on pose la question, mon alphabet, c'est en anglais, parce que ça sort plus facilement d'écrire dans une langue, c'est vachement différent. Même si je peux aider avec la traduction des choses, je peux relire la traduction. D'écrire dans une autre langue, ça va prendre une des nuances, une aptitude. Je ne sais même pas si c'est un mot, une aptitude que je n'ai pas.
Je soupçonne une petite coquetterie chez vous, Eddie Harris. Je me demande si vous ne faites pas tout pour ne pas perdre votre accent américain.
Non, je fais mon mieux de ne plus avoir cet accent minable. Quand on entend un Américain qui parle français, qui habite en France pendant 20 ans, qui parle français comme les pompiers sont partout, et ça, je ne veux pas être parmi ces gens.
Pour vous rentrer à la maison, c'est où?
Vous dites que pour les Noirs américains, descendants d'esclaves, la notion du chez-soi est absolument fondamentale. So?
Ben, c'est aux États-Unis, pour les Noirs des États-Unis. Les Noirs américains, c'est là qui est notre chez-nous. Même pour moi, mon chez-moi, c'est pas en Afrique, mais c'est les États-Unis. Sauf que maintenant, peu à peu, mon chez-moi est devenu un petit village en Charente.
Donc pour reprendre à nouveau James Baldwin, vous diriez que chez vous, c'est vous êtes votre propre maison.
Oui, comme nous tous. Oui, je pense que c'est le plus important. Il faut voir les choses comme ça. Comme ça, on n'attache pas grand-chose à un lieu, à une culture, parce que tout ça évolue et on ne sait jamais quand on va être forcé de quitter un lieu, soit pour un boulot, soit pour une autre vie, une meilleure vie. Et si on attache trop à un lieu, à une culture, c'est ça pour moi qui pose des problèmes.
en sol majeur @rfi.fr.
Notre invité.
Vous détectez toujours un accent américain?
Ah oui, quand même, oui. Ah, mais moi, personnellement, j'adore ça. Hein.
Ah, d'accord, ok. Donc c'est bon.
C'est même pour ça qu'on vous a reçu, on va dire. Ah, vous l'avez cherché, celle-là. Eddie Harris, qui publie donc aux éditions Liana Levy, Paris en noir et black, et qui va certainement repartir à Pranzac, son petit village charentais, en vélo. On va se quitter en musique avec quelque chose qui vous tient à cœur, Railroad Train de Bill Staines.
Railroad Blues de Bill Staines.
Pardon. Chanteur de folk avec le chapeau sur la tête et puis Dieu dans le cœur.
Oui, c'est un peu cowboy. J'étais cowboy quand j'étais jeune, mais aussi, ça, c'est la musique de quelqu'un qui a envie toujours de voyager.
I heard a whistle in the night, and I saw her lie when she come around the bend. And when I heard her softly moan, then I felt alone and lonesome once again. I says my life has been a game, ain't had no name to speak of anyhow. Yet I really can't complain.
Petite frustration signée Bill Staines, Caroline Filliette, Marc Delouvrier, Valérie Royer, Yasmine Chouaki. On se retrouve demain autour de la culture palestinienne de la musicienne Camilla Joubran.